France Culture.
Alors que la HAS, la Haute Autorité de Santé, saisie par le ministère de la Santé, planche sur les parcours de transition des mineurs trans afin de remettre ses recommandations dans quelques semaines, et alors que cet enjeu important suscite des polémiques par tribune interposée, un débat ce soir, transidentité, comment la parole des mineurs est-elle, doit-elle être accueillie? Pour en débattre, deux invités ce soir, Jean Chambry, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes pédopsychiatre, chef du pôle au GHU Paris et responsable du CIAPA, le centre intersectoriel d'accueil pour adolescents. Vous participez au groupe de travail mis en place donc par la HAS en vue de futures recommandations sur le parcours de transition des personnes transgenres. Face à vous, Catherine Zitoun, bonsoir. Vous êtes psychiatre et pédopsychiatre, vous êtes chef de pôle en pédopsychiatrie au GHU Paris. Merci beaucoup à tous les deux d'être présents ce soir dans Questions du soir.
C'est souvent à mon âge qu'on se rend compte que des fois les choses ne vont pas et qu'on n'est pas à l'aise dans notre corps. Puis je voulais faire passer aux parents d'enfants transgenres que on n'est pas en deuil, ils ont pas à être en deuil parce qu'on est toujours là, on se redécouvre en fait et on vit, on n'est pas en train de mourir. Je m'imaginais plus petit me dire que un jour je me déguiserais en fille. Je savais que j'étais pas une fille. J'étais bloquée en fait, j'étais complètement bloquée dans ce corps et je comprenais pas exactement ce qui se passait. Il y avait une espèce de confusion dans mon cerveau qui se disait: mais je suis un garçon, pourquoi est-ce que on m'identifie à une fille? J'étais énervée contre tout le monde, j'étais énervée contre la terre entière d'être moi en fait finalement, parce que j'étais bloquée dans ce corps. Et en plus je pense que j'en voulais aux gens de pas remarquer, de pas m'aider, de voir que j'allais mal.
Le témoignage extrêmement fort, bouleversant aussi, hein, d'Adriano. Il a 14 ans, il s'exprimait sur France 2 dans l'émission intitulée « Ça commence aujourd'hui ». Jean Chambry, quels sont les premiers mots que vous dites à un mineur qui vient vous voir parce qu'il s'identifie à un genre différent de celui de son sexe de naissance ?
En fait, je l'accueille en disant que ça fait partie des possibilités du développement et que effectivement, ce qui va être intéressant à parler ensemble, c'est comment il voit son avenir, qu'est-ce qu'il en attend, sachant que effectivement, ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas un trouble, et que il y a une diversité possible dans la construction de son vécu de genre. Et ce qui est important maintenant, c'est de se projeter dans le futur pour qu'il soit amené à vivre tout les domaines qu'on a à vivre à l'adolescence et que ce vécu trans ne l'empêche pas, ne l'enferme pas dans toutes les possibilités qu'il a à vivre, et comment on va accompagner aussi ses parents sur cette question pour qu'ils gardent cette sécurité dans le lien avec eux.
Vous tenez ce discours indépendamment de l'âge qu'il ou qu'elle a, c'est-à-dire que à 8 ans ou à 15 ans, c'est toujours la même ambition de se projeter, d'écouter une parole?
En fait, moi, je ne reçois que des adolescents, donc je reçois à partir de 12-13 ans. Mmh. Et effectivement, c'est toujours l'idée de cet accueil inconditionnel, de l'idée que ce que tu penses être, eh bien, il n'y a aucune légitimité à le remettre en cause. Et par contre, effectivement, c'est plutôt comment on va t'accompagner à vivre ce que tu vis et des difficultés ce que tu vis. Et par contre, effectivement, et au départ, ça a été un effort pour l'équipe, on n'est pas dans la question du pourquoi, mais d'où ça vient, mais comment tu comprends, mais plutôt qu'est-ce que ça représente pour toi, comment les choses se sont développées, construites, et qu'est-ce que tu attends de nous aujourd'hui pour vivre au mieux ce que tu as à vivre dans ta vie d'adolescent.
Catherine Zitoun, est-ce que vous les accueillez, ces enfants, ces personnes mineures, avec, j'allais dire, le même esprit ?
Oui, nous accueillons des adolescents, nous accueillons aussi des enfants, c'est plus rare, dans nos consultations de pédopsychiatrie. Et on les accueille à deux, on travaille en binôme, et on écoute d'abord, on accueille leurs paroles, et très vite on entend qu'il y a de la... Derrière cette parole, derrière cette demande où il y a de l'urgence... Ils sont pressés. Derrière cette demande, il y a de la souffrance. On ne va pas la mettre en avant. Je dis que je les entends. J'entends cette demande cette demande qui vient d'un adolescent et on va essayer de comprendre d'où elle vient, quand est-ce qu'elle est apparue, quand est-ce que ce malaise est apparu. On va essayer de comprendre ensemble, on va faire un chemin ensemble pour, à partir d'un moment, on leur dit, voilà, tu as cette demande, on ne la remet pas du tout en question. Surtout qu'il y a beaucoup de certitudes de leur part. Ils sont ancrés dans des certitudes. Donc, on ne remet pas en question la demande. Mais ce qu'on propose, nous, dans notre consultation, c'est tu as cette demande, tu veux faire cela. Ce qu'on te propose, c'est de le faire, mais faire cette démarche de manière éclairée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui t'a poussé à ça? Quels sont les déterminants de ce choix.
On va revenir sur ces déterminants, mais en vous écoutant, Catherine Zitoun, je me dis qu'il y a une désynchronisation des temps dans ce que vous expliquez. Il y a l'urgence de la souffrance, l'urgence ressentie par ces enfants, et il y a le temps, vous, que vous prenez justement pour déplier ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes, pour comprendre qui ils sont et où ils vont. Comment vous faites face à ces deux temporalités ?
C'est exactement le terme que vous avez employé, le terme de déplier. On voit ces adolescents avec une temporalité compactée. Comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans d'autres problématiques adolescentes. L'adolescence, c'est l'urgence de vivre, la fureur. Là. Et on assiste à une temporalité compactée et le travail, c'est de remettre de redonner du temps au temps, de remettre du souffle. Et c'est un travail de parole, c'est un travail qui se fait entre l'adolescent et le médecin thérapeute, c'est-à-dire remettre de l'autre aussi de l'altérité.
Jean Chambry, je vais vous poser la question d'une manière un peu directe, mais est-ce que vous êtes la bonne personne à aller voir lorsque justement on est traversé par une dysphorie de genre et qu'on est mineur? Il y a un débat important aujourd'hui, notamment un débat suscité par les associations. On pathologise trop la question de la transidentité et le personnel médical, les médecins, ne sont pas les bons interlocuteurs pour accueillir cette parole. Comment est-ce que vous accueillez vous-même ce déficit peut-être de légitimité ?
Alors, moi, je partage aussi que, effectivement, ce qui est important pour un adolescent, c'est que les personnes qui sont censées s'occuper de lui, que ça soit l'infirmière scolaire, le médecin généraliste, ceux qui ont un rôle éducatif, soient en capacité de pouvoir accueillir cette parole dans un premier temps et ne pas tout de suite penser qu'il faut aller voir le spécialiste de cette question. Et même dans mon service, il arrive régulièrement qu'avec mes collègues, que je dise, mais je pense que tu es tout à fait en capacité de soutenir ce jeune et que si tu me l'adresses, tu induis quelque chose au sens que, effectivement, je suis quand même connu pour être dans un réseau et d'accompagner des adolescents qui s'engagent dans des parcours médico-chirurgicaux de transition et que peut-être, pour l'instant, c'est pas du tout ça leur attente. Leur attente, c'est de pouvoir être accueillis dans leur singularité sans être pathologisés et de pouvoir en faire quelque chose avec les personnes qu'ils rencontrent.
Donc pas besoin de venir vous consulter si je caricature.
Pas systématiquement.
Catherine Zitoun, vous êtes sur la même ligne ?
Oui.
Pas besoin de venir vous voir non plus ? Systématiquement, j'allais dire.
Pas systématiquement. Il y a, notamment au niveau de la médecine scolaire, une première ligne, des médecins de première ligne, des psychologues de première ligne, c'est eux qui font un premier travail. Et puis, ils nous adressent les adolescents, les enfants, quand ils sentent que il y a besoin d'un avis, d'une consultation spécialisée.
Je voudrais vous faire...
Pardonnez-moi,
je vous en prie, finissez.
Bien souvent, derrière cette demande, il y a de la souffrance psychique.
On va revenir là-dessus justement, on va écouter la voix de Léandre, 15 ans, qui s'exprimait le 20 février 2023.
Le miroir, pour moi, c'est un peu un ennemi de la vie quotidienne. Ça peut être bizarre ou banal, mais pour moi, c'est vraiment une épreuve où j'ai du mal à me regarder. Que ce soit dans le visage, que ce soit la poitrine. Forcément, pour moi, c'est quelque chose que je peux pas et que vraiment c'est horrible. Les hanches, et ce qui est horrible pour moi. Je me dis qu'il n'y a pas pire pour l'instant d'être comme ça et que ça changera en fait.
Mes colocataires, elles avaient surpris une conversation entre plusieurs garçons de ma classe qui avaient dit que c'était pas normal en tout cas que je voulais qu'on m'appelle Léandre et que je voulais qu'on me genre au masculin. J'ai pas de mots pour expliquer tellement pour moi c'est dégueulasse et que c'est limite si je suis pas intégrée en fait. Ou j'existe peut-être pas.
Jean Chambry, je voudrais qu'on entre de plein pied dans ce débat sur les motifs de la dysphorie de genre. Comment les jeunes mineurs trans qui viennent vous voir expliquent la situation, la souffrance qu'ils traversent ?
Alors, je voudrais vraiment quand même qu'on éclaircisse bien cette question sur le fait que les mineurs trans n'ont pas tous une souffrance psychique et qu'on a souvent des représentations assez caricaturales de leur présentation. Donc, il y a ceux effectivement qu'on entend et qui doivent être accompagnés. Il y a des discours très divers et des attentes très diverses. Souvent, il y a un certain nombre de ces adolescents qui souhaitent surtout se sentir légitimes dans le discours qu'ils portent, dans l'espace où ils vivent. Et déjà, c'est surtout ça qu'ils viennent chercher. Après, il y a la question effectivement de l'accès à certains traitements, etc., qui posent question et qui prennent du temps pour le penser. Ce que je voudrais vraiment bien avoir en tête, c'est que dans ces consultations, effectivement, on a un accueil inconditionnel et ensuite, effectivement, qu'on prend du temps pour comprendre qu'est-ce qui pourrait faire que leur vie soit plus facile au regard des réalités familiales, sociétales qu'ils vivent et parfois au regard de leur propre malaise interne qui n'est pas toujours présent, en tout cas dans notre consultation. Et on va trouver effectivement des outils pour les aider autour de ça. Mais ce que j'ai vraiment appris autour de ces 15 ans avec les 200 patients qu'on a accueillis, c'est vraiment de sortir de critères. La tendance médicale aimerait qu'on trouve des critères, des questions, voilà, qui permettent de répondre aux questions des parents qui disent « Mais vous êtes sûr, c'est vraiment un trans ou pas ?» Et effectivement, ma réponse est « Moi, je fais confiance à la parole de votre adolescent et je travaille à partir de cette parole. » Et on va prendre le temps de voir ce que ça représente pour lui. Et par contre, on va développer des espaces pour les parents qui, eux, se posent énormément de questions. Et c'était intéressant, le premier témoignage sur cette question du deuil. Parce que parfois, les parents, effectivement, disent on a le deuil du garçon ou de la fille à faire pour pouvoir investir ce patient, alors que lui-même dit, mais moi, j'ai un sentiment de continuité. La temporalité de mon questionnement, elle peut être très différente entre cet adolescent qui se pose des questions depuis un certain nombre d'années, les parents qui ont découvert ça il y a 8 mois, le professionnel qui rencontre aussi cette clinique particulière, et c'est comment on articule tous ces discours et toute cette temporalité pour permettre aux jeunes de vivre tout ce qu'il a à vivre.
Sur ce point, Catherine Zitoun, vous utilisez une approche différente, notamment la psychanalyse. Alors pourquoi recourir à la psychanalyse justement quand on accueille des mineurs trans ?
Alors on recourt pas à la psychanalyse. J'ai une formation de psychiatre et de psychanalyste. J'ai donc une écoute analytique, mais c'est pas un outil dont je me sers systématiquement. Seulement
c'est
dans
une
l'écoute
lecture quand même.
Dans l'écoute analytique, les mots résonnent. On prend pas le mot forcément au pied de la lettre. Ce que on voit dans ces ados qui viennent nous consulter, c'est qu'au moment où il y a la demande, en effet, souvent il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a plus de souffrance. Mais en fait, quand on fait on voit comme au microscope, on reprend comme au microscope le chemin qui a été fait, on voit que la demande a émergé très souvent à un moment où l'ado s'est senti très mal. Il y a eu comme une chute, il y a eu une dépression. Et là, il est tombé, parce qu'on lui en parle, parce que des copains lui en parlent, ou des copines lui en parlent, parce qu'il est allé sur des réseaux sociaux, il est tombé sur la solution trans. Et il s'est dit... La solution. C'est mon problème, il vient de là. Mon problème, il vient du fait, et c'est très souvent comme ça que c'est amené par les adolescents, que mon âme ou que je suis née dans le mauvais corps. Et cette solution, elle apparaît à ce moment-là comme une bouée de secours. Il y a un adolescent, il y a un individu qui se noie, qui va très mal et qui se noie. Et c'est ce sentiment de noyade, on le retrouve souvent quand on refait avec l'adolescent tout ce qu'il a pu vivre depuis l'enfance, on le retrouve très souvent. Dans la préadolescence, dans l'enfance, il y a eu un moment de dépression de l'enfance, un moment où, pour des raisons familiales par exemple, l'enfant s'est senti lâché. Et ça, ça reste. Il n'y a rien qui est perdu dans la vie psychique. Ça reste quelque part en nous et ça réémerge dans l'approche de l'adolescence. Et là, il y a la solution trans qui est trouvée avec une certitude.
Mais ce qui me trouble avec ce mot de solution que vous employez, on a le sentiment, ça me donne l'impression que c'est une solution plutôt qu'une autre. Comme si, au fond, il n'y avait pas quelque chose de plus profond, de plus ancré et même de plus vital, j'allais dire.
C'est une solution qui est proposée par l'entourage, qui est proposée par le corps social. Je pense qu'il y a 20 ans, la transidentité prend une telle ampleur, c'est aussi lié à la réponse du corps social. Aujourd'hui, le type de réponse, c'est ça. Tu veux ça, t'es mal dans ton corps, eh ben bon, on va changer le corps. C'est la solution qui est proposée aujourd'hui par le corps social.
Jean Chambry, vous êtes d'accord vous-même avec cette approche ?
Non, moi je partage pas du tout cette approche. C'est-à-dire que je pense que effectivement il y a une liberté de parole, qui s'est ouverte avec la possibilité de penser son identité de façon différente et qui s'inscrit effectivement dans des évolutions sociétales où sur la question d'être homme, la question d'être femme se pose d'une façon différente. Mais moi, ce que parfois, effectivement, on le voit quelquefois dans certaines situations où on peut se demander si ce vécu n'est pas en réponse à tel ou tel événement. Mais sur la quantité de patients reçus, c'est vraiment minoritaire. Et en fait, ce que je crains dans cette approche, c'est comment pouvoir être fier de soi dans son vécu si on ramène ce vécu à forcément une hypothèse psychopathologique. C'est-à-dire que effectivement, et comme dirait un jeune homme trans qui un jour m'a dit « Mais vous, monsieur Chambry, à 15 ans, est-ce que vous deviez vous justifier de vous sentir garçon alors que moi, ce qu'on me demande en permanence, c'est de me justifier ?» Et l'idée, c'est effectivement, et ça me demande un gros effort sur soi, c'est de déconstruire les représentations qu'on a jusque maintenant eues en tête, que forcément, c'est les caractères sexuels primaires, les organes génitaux qui sont le soubassement de l'identité et d'accepter qu'il puisse avoir effectivement des parcours pluriels, des visions plurielles et que effectivement aucune ne renvoie forcément à une dimension pathologique et que effectivement ce qui va être le plus important c'est comment préparer cet adolescent à vivre effectivement la question de l'amitié, la question d'être amoureux, le projet d'études, trouver sa place dans la famille, qui sont les questions qui se posent à tout adolescent, dans le respect de ce vécu identitaire qui ne conduit pas forcément à des prescriptions médicales ou chirurgicales. Parce que je crois qu'il faut vraiment différencier la question de le vécu de son identité et la question de l'entrée dans un parcours médico-chirurgical et qu'il faut accepter cette diversité. Et encore une fois, on parle souvent à partir du lieu où on accueille ces adolescents. Il est clair que les deux adolescents accueillis au SIAPA ne sont pas représentatifs de la totalité du phénomène des mineurs trans. Si je travaillais dans une association, je ne verrais pas les mêmes profils de patients. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir en tête. Et quand même, l'expérience de ces 15 ans et les consultations un peu ancienne, voyez la même chose, c'est que oui, nous avons une augmentation des demandes, mais depuis 2-3 ans, nous avons une stabilisation du nombre de demandes. Ça ne continue pas d'augmenter. Donc il y a quelque chose effectivement d'un phénomène qui s'est libéré. Il y a un pourcentage d'adolescents qui est questionné par cela, mais il faut, et je trouve que c'est compliqué pour eux d'entendre c'est l'épidémie, c'est un phénomène de mode. Je pense que on ne se sent pas pris au sérieux quand on entend tous ces discours, alors même que dans le vécu d'adolescence, ce n'est pas un choix. Je n'ai pas choisi tous, si je leur pose la question, mais si tu avais le choix, ils diraient, mais non, mais j'aurais pas choisi d'être trans.
Sur l'augmentation, Jean Chambry, vous en parlez tous les deux, hein, Catherine Zitoun et Jean Chambry, de cette augmentation. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de la mesurer? Parce qu'effectivement, on lit tout et son contraire sur le sujet, dans des termes souvent extrêmement douteux. Alors, à quel point le phénomène est-il réel, ce phénomène d'augmentation?
Alors, Il y a un phénomène d'augmentation dans les espaces de consultation qui ont été un peu fléchés sur ces questions. Après, il y a réellement, effectivement, dans les discours aussi, ce que j'ai vu par exemple, c'est que dans les groupes d'adolescents du SIAPA, avec des adolescents qui ne sont pas du tout dans cette recherche, effectivement, cette question du genre et ce que ça représente est souvent au cœur de nombreuses discussions et avec des différences générationnelles énormes. Et ça, c'est intéressant à l'adolescence, de nous faire percevoir à nous qu'on est des vieux cons et qu'on n'a rien compris sur la question du genre.
Catherine Zitoun, comment est-ce que vous expliquez, vous, cette augmentation qu'on observe actuellement ?
D'abord, je voudrais revenir sur le fait qu'il y a une différence entre les adolescents pour lesquels le questionnement quant au genre émerge dans la préadolescence ou l'adolescence, et ces cas plus rares où on sent que les choses se scellent dans l'enfance, et là, ça fait appel à des problématiques beaucoup plus archaïques.
Archaïque, c'est-à-dire ?
Des choses qui se scellent dans la toute petite enfance et qui font référence à des pathologies type troubles du spectre autistique, psychose. Mais pour ces troubles qui apparaissent et ces questionnements quant au genre qui apparaissent dans la préadolescence et la préadolescence, il faut bien voir que l'adolescence, c'est un phénomène où c'est un moment, c'est un passage, c'est un voyage. C'est un voyage où le corps et l'esprit ne sont plus en adéquation. Il y a le corps qui se transforme, il y a un fossé qui se creuse entre le corps et l'esprit. Et là, l'esprit ne reconnaît plus ce corps, il y a un malaise au corps qu'on retrouve très souvent. Et c'est pas un hasard si cette question de la dysphorie de genre s'ancre au moment de l'adolescence. On retrouve cette problématique du corps. Moi, j'avais travaillé il y a longtemps dans un service pour adolescentes anorexiques. À l'époque, la pathologie du moment, c'était l'anorexie mentale. Et ça se situait encore dans un écart, un questionnement quant au corps. Ce qui apparaît aussi, comment j'explique cette augmentation ? Ce qu'on voit en tout cas, c'est que quand il y a dans une classe de collège, nous dans notre, en tant que psychiatre d'intersecteur, je me déplace beaucoup dans les collèges, les lycées, et on repère que quand il y a un adolescent qui a cette problématique de dysphorie de genre dans une classe, dans la même année, où il va y en avoir deux, et puis trois. C'est troublant. Et ça se passe dans la même classe. Et souvent, c'est des gens, des filles. Nous, on voit surtout des jeunes filles qui se connaissent.
Mais ça, comment vous l'expliquez ? Parce que ça peut paraître contradictoire avec les faits, avec l'idée selon laquelle il n'y a pas d'effet de mode. Et on peut le comprendre qu'il n'y a pas d'effet de mode, d'ailleurs. Comment vous l'expliquez ?
C'est une expression. Dans ce moment sociétal que nous vivons, c'est une expression du malaise adolescent. Et cette expression prend cette forme actuellement.
Jean Chambry, une réaction vous-même sur ces cas peut-être au sein d'une même classe ? C'est quelque chose que vous observez également ?
Alors ça peut arriver, mais alors moi je vois pas les choses tout à fait de la même façon. C'est-à-dire
alors,
que
cette
question du genre et ce qu'il représente, on n'y est pas tous sensibles. Et si on est sensible à cette question, ça interroge effectivement quelque chose à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que moi je pense que c'est pas parce que je parle qu'un adolescent parle de sa transidentité à son copain qu'il se met à se penser trans. Mais par contre, il y a quelque chose qui s'était pas autorisé à interroger en lui, qui voit interroger chez son copain, et que effectivement, il est arrivé parfois de recevoir des jeunes dans l'après-coup de cette rencontre, et finalement, le parcours et l'accompagnement de ce jeune a montré que oui, finalement, ça répondait vraiment à un questionnement qui existait chez lui, mais avec une difficulté à se le représenter et utiliser les mots, et que effectivement, parfois, on a quelques situations où il y a une identification, un soutien, mais en général, au cours des consultations, ça disparaît très vite finalement. On voit bien qu'il y a eu un questionnement, mais qui ne s'est pas organisé autour de ce vécu trans, on s'est posé la question, et d'autres qui, effectivement, il y a quelque chose qui s'est révélé en eux de cette réalité, et qu'on accompagne, et qui met d'autant plus en questionnement les parents, qui disent, mais vous rendez compte, il nous a jamais parlé de ce sujet, et depuis qu'il a un copain trans, il nous en parle, alors est-ce qu'il faut vraiment être à l'écoute de ça? Mais encore une fois, je pense qu'il y a un pourcentage d'adolescents pour lequel cette question est présente. C'est très difficile de la mesurer en chiffres. Mais effectivement, à partir du moment où on peut dire cette question n'est pas pathologique, n'est pas le synonyme d'une entrée dans une maladie psychiatrique, c'est une possibilité de la façon de se construire, eh bien effectivement, on peut s'autoriser à l'aborder d'une façon différente.
Est-ce qu'il y a dans vos consultations à l'un et à l'autre un biais fondamental, j'allais dire, puisque les mineurs trans qui viennent vous voir, on l'imagine, sont très largement accompagnés par leurs parents, ce qui signifie que leurs parents ont accepté la démarche. Mais quid des autres, quid de ce continent peut-être inconnu pour vous, Catherine Zitoun?
Alors, souvent, nous, les adolescents qu'on reçoit avec leurs parents, parce que effectivement, on reçoit les adolescents avec leurs parents, et c'est souvent les parents qui font la première demande et ils veulent un deuxième avis. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que c'est difficile de chiffrer aussi ce nombre d'adolescents qui ont ces dysphories de genre, avant de les appeler trans d'ailleurs, parce que trans c'est déjà le bout du parcours hein, quand même. Mais en tout cas, ils ont un questionnement quant au genre. Et ils viennent avec leurs parents, et leurs parents demandent un deuxième avis. Après, souvent, ces parents sont pas d'accord avec le premier avis qui a été donné, c'est pour ça qu'ils en demandent un deuxième. Et puis, on fait avec ça. On accompagne. Ce qu'on voit, c'est que cette question prend souvent place dans un conflit entre l'adolescent et ses parents. Évidemment, l'adolescence aussi, c'est le moment du conflit avec les parents, parce que c'est aussi le moment de la séparation. Et comment comment représenter la séparation, comment la mettre en œuvre, c'est compliqué de se séparer.
Jean Chambry, une réaction sur ce mot même d'ailleurs de séparation. Est-ce qu'il y a vraiment séparation pour tous les parents? Est-ce que l'ensemble des parents le ressentent comme tel? Et une fois qu'un mineur a été au bout de son parcours, est-ce qu'il y a vraiment simplement une séparation?
Après, c'est ce qu'on entend par le processus de ce que j'entends chez Catherine, c'est le fameux processus de séparation-autonomisation qui fait qu'on s'autorise à pouvoir être soi, avoir des projets à soi et d'avancer dans la vie. Et ça, effectivement, dans tout
ça. C'est l'émancipation, ça.
Voilà, c'est voilà. Mais effectivement, moi, ce que je vois, c'est que il y a une telle diversité des parcours. Moi, je pourrais pas dire ceux qui viennent avec une demande à tel âge, ils sont en lien avec telle pathologie. Voilà, parce que ce que j'ai vu, c'est une telle diversité des parcours et des profils qui font que, effectivement, ce qu'il a fallu que j'apprenne à faire, c'est travailler sans critères, sans questionnaires, sans repères, et d'accepter que je vais uniquement m'étayer sur la parole de l'adolescent et de ses attentes, et qu'on va travailler aussi ça avec les parents, parce que souvent, c'est une question qu'ils me posent. Docteur, est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'il est? Et effectivement, je vais dire, mais personne ne peut être sûr de ce qu'il est, à part de travailler à partir de son discours, et on va accompagner. Et ce qui est important, ce qu'il a besoin de ressentir, c'est que vous pouvez l'aimer, l'investir, l'accueillir, quoi qu'il soit. C'est ça qu'il a besoin de vérifier auprès de vous.
J'aimerais vous faire entendre la voix d'Aaron qui s'exprimait dans la série documentaire diffusée sur France Culture en octobre 2024.
L'intérêt de militer dans une structure qui a été pensée par les personnes trans et pour les personnes trans et leurs proches, c'est que d'une part, il va y avoir des enjeux qui sont vraiment propres aux personnes trans et pour lesquels les personnes LGB et autres n'ont pas nécessairement de connaissances. Même des personnes qui vont sincèrement vouloir se positionner en allié, elles peuvent être ignorantes sur certains sujets. Et puis par ailleurs, en termes de mixité et de non-mixité, c'est vrai que je pense que pour des personnes trans, surtout quand on est plus vulnérable et qu'on est par exemple en début de parcours, et le fait de pouvoir se retrouver et réfléchir ensemble dans ces cercles sans avoir à constamment faire de la pédagogie et se justifier. Pour moi, c'est les principales raisons qui a milité uniquement au milieu trans.
Aaron, qui milite dans l'association Outrance, une association féministe d'auto-support des personnes trans. Catherine Zitoun, on a bien compris le rôle des parents, la façon dont vous accueillez aussi ces mineurs. Comment est-ce que vous travaillez vous-même avec les associations? Est-ce qu'elles jouent un rôle justement dans ce processus d'accompagnement et d'écoute?
Si le besoin s'en fait sentir, on peut tout à fait orienter ces adolescents vers ces associations, mais en général, ils se sont déjà orientés eux-mêmes.
Jean Chambry.
Alors, ce que j'ai trouvé très important avec les associations qui maintenant vraiment sont au cœur aussi de certains de nos réunions, c'est cette place du savoir expérientiel et d'accepter justement de se décaler de nos savoirs académiques pour accueillir un autre savoir. Et ça, je crois que c'est aussi un modèle qui se développe en médecine dans d'autres aspects. Et c'est important qu'il soit présent. Et c'est intéressant de voir aussi comment les adolescents utilisent ces différents espaces. Ils savent qu'ils viennent à l'hôpital, que ça va beaucoup rassurer les parents parce que c'est un lieu qui est plus neutre et eux-mêmes vont faire le tri dans ce qu'ils trouvent intéressant. Certains font le choix de militer. La majorité, c'est pour ça que je pense qu'ils ne sont pas représentatifs parce qu'effectivement, il y a une diversité des publics entre ceux qui vont directement aux associations qui viennent chez nous. Mais je crois que c'est très important cette question du dialogue, de l'écoute, quand soi-même, effectivement, on n'a pas vécu ces expériences.
Un mot sur une proposition de loi. Le 28 mai dernier, les sénateurs ont adopté une proposition de loi, les Républicains, je cite, visant à encadrer les pratiques médicales mises en œuvre dans la prise en charge des mineurs au questionnement de genre. Un texte qui interdit donc dans les faits les transitions de genre pour les mineurs. Dans un avis de mai 2024, le défenseur des droits a exprimé son inquiétude face à un texte, je cite, de nature à porter atteinte aux droits et à l'intérieur supérieur de l'enfant. Fin de citation. Catherine Zitoun, qu'est-ce que vous pensiez vous-même de cette proposition de loi et de l'interdiction qui était faite aux mineurs, justement, d'entamer dans les faits une transition de genre?
Alors déjà, je reviens à ma pratique. En accompagnant, en accueillant et en accompagnant ces adolescents qui sont en demande de transition, on fait avec eux un chemin, un travail de parole, et on part, comme je le disais tout à l'heure, souvent d'une urgence. Urgence à prendre des hormones, urgence... voilà, on part d'une temporalité compactée et au fur et à mesure du chemin, les choses se détendent et ce qu'on observe, c'est que l'adolescent est moins pressé. L'adolescent est moins pressé et il dit « je peux patienter ». Alors, il arrive que les parents ne soient pas d'accord, donc l'adolescent dit « je peux patienter ». Et puis à 18 ans, on verra. C'est-à-dire que petit à petit, il se décale de la demande initiale et apparaissent d'autres choses. Et parmi ces adolescents qu'on rencontre, ils se lancent dans un travail psychique. Alors, je pense qu'il faut donner le temps au temps. Et par ailleurs, il y a des tas d'études. Les études sont très contradictoires quant à la prescription d'hormones, soit d'hormones bloqueurs de puberté, soit d'hormones de croissance. Il y en a qui disent elles sont inoffensives, d'autres il y a des effets secondaires. Mais en fait, aucune de ces études, à l'heure actuelle, n'est suffisamment rigoureuse sur un plan scientifique pour dire celle-là, on peut... Voilà, cette étude est la bonne, alors on peut prescrire ou bien il ne faut pas prescrire.
Pour bien comprendre ce que vous dites et quant à la question de savoir s'il doit être interdit ou non aux mineurs d'entamer une transition de genre, lorsque vous dites, Catherine Zitoun, qu'il faut laisser du temps au temps, combien de temps alors ?
Moi, ce que je dis toujours à l'adolescent, c'est on va faire un chemin. Et puis, je vois s'ils veulent bien faire ce chemin, eh ben très bien. Si ça bloque, à ce moment-là, on propose d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. Il m'arrive d'adresser aussi à des endocrinologues pour avoir un avis. Et voilà, on prend des avis. C'est pas quelque chose de léger quand même. Ces interventions et ces prescriptions médicamenteuses qui touchent au corps.
Jean Chambry, votre avis, vous, sur ce débat qui tourne autour de l'interdiction pour les mineurs d'entamer une transition de genre?
Moi, je me suis exprimé très clairement auprès du Sénat sur le fait que j'étais totalement en désaccord avec cette proposition, contrairement à Catherine, et sur le fait que, effectivement, c'était aussi un désaveu des équipes médicales qui se sont engagées sur ce travail, et ça laisserait penser que nos équipes ne réfléchissent pas, font tout très vite, ce qui est totalement démenti par les premières études de cohorte, comme celle de David Cohen à la Pitié-Salpêtrière, où on voit bien que la proposition d'un traitement hormonal après 16 ans a été précédé de plus de 14-18 mois de consultation avant de la proposer et que plus de la moitié des situations n'ont pas abouti à ces prescriptions. Et donc je ne comprends pas pourquoi ça serait les débutés qui seraient mieux que nous, comment on doit accompagner ces adolescents et ces enfants, et en plus avec un amalgame entre les traitements de virilisation et de féminisation et les bloqueurs de puberté. Je renverrai aux recommandations de la Société française d'endocrinopédiatrie qui vient de faire le point sur ces questions et qui dément tout ce qui circule sur le fait qu'il y aurait des séquelles, que ça augmente les possibilités de regrets, etc. Et que toutes ces décisions, elles font l'objet d'une réunion de concertation pluridisciplinaire où on est vraiment dans peser le pour, peser le contre et dans quelque chose qui est vraiment dans chaque situation au cas par cas.
D'un mot, Jean Chambry, quand est-ce que la HAS, la Haute Autorité de Santé, devrait rendre les recommandations qui lui ont été commandées par le ministère de la Santé?
Et bah, si tout va bien, mars-avril, je pense qu'on sera prêt.
Si tout va bien. Merci beaucoup à tous les deux de cette discussion, de ce débat. Jean Chambry, je rappelle que vous êtes pédopsychiatre, chef de pôle au GHU et responsable du CIAPA. Le CIAPA, c'est le Centre Intersectoriel d'Accueil pour Adolescents. Vous participez à ce fameux groupe de travail mis en place par la HAS en vue de futures recommandations sur le parcours de transition des personnes transgenres. Et Catherine Ditoun, vous êtes psychiatre et pédopsychiatre, chef de pôle en pédopsychiatrie au GHU Paris. Merci à tous les deux d'être venus dans Question du soir.